Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bienvenue au podcast La chirurgie au féminin. Aujourd'hui, nous recevons Dr Stéphanie Laferté, qui est R1 en ORL à l'Université de Sherbrooke. On a bien hâte de découvrir comment ça s'est passé ses premiers mois en ORL, puis de découvrir un peu toute sa réalité, puis comment qu'elle en est venue à décider d'aller dans cette spécialité-là. Des histoires de détermination et d'excellence, passons le micro aux femmes chirurgiennes. Bonjour Dr Laferté, on est très contente de vous avoir avec nous aujourd'hui au podcast. Donc pour commencer, on aimerait ça savoir un peu d'où ça vient votre intérêt là, pour l'ORL.
Et merci de m'accueillir avec vous. Puis appelez-moi Stéphanie, il n'y a pas de problème, puis tutoyez-moi, il
n'y
a pas de problème. Moi, mon intérêt pour l'ORL, ça s'est développé vraiment tard dans mon parcours. Je pense que c'est de plus en plus habituel, de plus en plus j'entends des mondes discuter de leur parcours. J'ai découvert février de mon an 1 d'externat. Comme j'avais pris un stage électif en ORL en me disant, bon, il y a comme du médicus, du chirurgicus, je trouvais ça très intéressant, comme un peu le combiné des deux. Et j'ai vraiment trippé. Moi, c'est un stage à Drummondville en région, j'étais la seule externe, pas de résident. Donc, j'ai eu énormément d'expositions, puis ça m'a vraiment comme attirée par le volet justement qu'on interchangeait le médicus, le chirurgicus ensemble. Puis c'était vraiment présent comme dans la clinique externe, en salle d'op, puis il y avait un suivi de patients longitudinal qu'on s'ouvre pas nécessairement de façon très omniprésente dans chaque spécialité chirurgicale. Fait que ça, c'est un aspect qui m'attire énormément.
OK, c'est intéressant parce que justement, il n'y en a pas beaucoup de spécialités que c'est médical et chirurgical. Puis on dirait que c'est une grosse question qu'on a avant de rentrer à la résidence. Est-ce qu'on veut faire du médical ou du chirurgical? Fait que toi, est-ce que c'était un peu ça? Tu ne savais pas entre les deux ce que tu voulais faire? Ou...
Bien, moi, tout mon préclinique, je me suis enlignée, j'allais en pédiatrie. C'était comme... Puis c'était un peu une... J'étais pas trop pour cette question. J'étais rentrée en médecine. Je me suis dit, tu sais, je trouve ça super intéressant, la santé, le corps humain. Puis tous mes emplois d'été, c'était comme avec des enfants. T'sais, j'étais comme tutrice, monitrice de ski, voile natation. T'sais, c'était tous des petits trucs avec les enfants. Puis j'adorais ça. Puis j'étais comme, hey, parfait, pédiatrie, moi, ça va être ça mon choix. Puis là, j'ai fait des projets de recherche en ça. Puis j'avais fait ma grille d'externat en fonction de ça, mes stages à option en pédiatrie. Puis après ça, j'ai dit, hey, mais je suis vraiment quelqu'un de manuel aussi. Comme, j'ai fait de la couture quand j'étais jeune, j'adorais bricoler de mes mains. Fait que j'étais comme, mon Dieu, je pense que ça va me manquer ce côté-là de la pédiatrie. Fait que, durant mon parcours d'externat, c'est un peu là que je me suis posé la question à quel point je voulais que la place chirurgicale soit présente dans ma pratique. Puis j'ai découvert que, oh mon Dieu, je veux vraiment que ça soit là. Puis que si jamais je voulais médecine de famille ou de la ligne, que c'est sûr que je voudrais être un petit peu plus spécialisée en chirurgie mineure, par exemple, ou des choses comme ça. Parce que j'adorais ça, je trouvais ça super satisfaisant, tu sais, offrir un résultat vraiment concret aux patients, comme physique. Moi, c'est quelque chose que j'aimais faire, travailler avec mes mains.
Ça fait quelques mois que tu as commencé ton R1. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la transition d'externat à la résidence? Comment tu aimes ça?
Mais moi, j'aime vraiment ça. Comme, moi, j'ai adoré le début de mon externat. Je suis pas quelqu'un qui est très livre d'école, banc d'école. J'aime vraiment plus être dans l'action puis comme le concret. Honnêtement, je trouve que la transition entre externat et résidence, je l'ai vécu un peu similaire à préclinique externat. Donc, je comprends que les deux, vous commencez justement avec externat. Mm-hmm. Puis, en ce moment, je me rappelle, j'étais complètement exténuée là, à la fin de mes premières journées. Là. J'étais comme, mon Dieu, ça n'a aucun sens que je fasse toute ma vie dans ça. J'arrivais à 6 heures, puis je pouvais dormir, là, puis comme me réveiller le lendemain matin, puis être fatiguée encore. Puis, c'est un peu, au bout de l'externat, après ça, comme je faisais ma vie comme avant, puis j'avais une vie après ma journée de travail. Puis c'est un peu comme ça au début de la résidence. On dirait que c'est beaucoup de responsabilités qu'on se dit, mon Dieu, 24 heures avant, on m'aurait jamais demandé ça. Puis là, c'est comme évident qu'il faut que je sache comment le faire, puis il faut que je le réussisse. Puis c'est parce qu'on réalise qu'on a les outils, en fait. C'est juste que c'est comme le petit stress de début d'avoir la responsabilité de ses propres actions un peu plus. Mais moi, j'ai pas non plus commencé en ORL comme premier mois à la résidence. J'étais aux soins intensifs. Donc, c'est sûr qu'aux soins intensifs, c'est les patients les plus instables de l'hôpital. Fait qu'il y a quand même beaucoup de filets de sécurité. Il y a des résidents seniors. Les patrons sont beaucoup plus présents que sur les étages, par exemple, qu'on voit plus nos patients par nous-mêmes. J'ai quand même aimé commencer au soin intensif. Ça a été une transition, je pense, un petit peu plus graduelle que certains de mes collègues. Mais moi, je pense que ça s'équivaut un petit peu. Là. T'apprends avec la responsabilité, on apprend nos différentes tâches. Mais si on fait ce qu'on, de plus en plus ce qu'on aime, on diminue un petit peu plus, on vise un petit peu plus toutes les spécialités qu'on apprécie. Donc, je pense que c'est vraiment le fun comme début.
Par rapport à ces nouvelles responsabilités-là, il y a aussi la responsabilité d'avoir quand même plus de connaissances en tant que résidente. Comment ça se gère, ça? Est-ce qu'il faut comme vraiment faire un blitz d'études avant le début de la résidence?
C'est vraiment une bonne question, honnêtement. Puis c'est justement, c'est une question un peu que je me posais. Surtout en commençant aux soins, je suis comme, mon Dieu, j'ai pas mes internes, tu sais, mm-hmm. comme, voyons donc, il faut que je gère ça. Puis, tu sais, la faculté nous permet quand même, tu sais, on a comme un guide, un peu comme quand on est un externe, on commence des nouveaux stages, ils nous envoient des fois des documents à lire, de préparatoires pour y arriver le mieux à notre stage. On a un peu la même chose comme résident par moment. Puis aussi, je dirais pas que c'est un blitz d'études parce que c'est pas tant les connaissances qui sont le plus stressantes. C'est la gestion de comme tout un peu le côté administratif, gestion d'étages. En tout cas, de mon côté, c'est ça à ce jour que je trouve plus stressant. Clairement que le stress des connaissances va venir plus tard. Mais pour l'instant, c'est dire, OK, là, il faut que c'est sûr que la fiche réseau soit faite. Le congé est fait comme ça, la fiche de CLSC soit faite, les médicaments sont à jour, il faut regarder la créale que j'ai recommandé une autre plus tard dans la journée. C'est toute l'espèce de gestion concomitante de ça. C'est comme, oh mon Dieu, j'avais pas réalisé que... Moi, je retournais chez moi le soir, puis j'y repensais plus, puis c'est correct, c'est ça, externe, qu'il faut faire. Mais je pense que c'est ça, c'est la continuité du soin que mm-hmm. tu lâches jamais, toi, mm-hmm. qui est le plus stressant. Je pense que c'est ça un petit peu ça. La gestion de comme pas stresser, t'écris tes affaires, OK, ça c'est fait, ça passe à d'autres choses, mais de pas rien oublier, puis en même temps, on reçoit 3 appels pour une consulte à l'étage, à l'urgence. Mm-hmm. Fait que tout ça, de gérer en même temps ces responsabilités-là, pour moi, je pense que c'est le plus difficile au début de la résidence.
Puis ça reste comme sur tes épaules, fait que tu retournes chez vous, puis... Tu y penses plus mm-hmm. que, mettons, quand tu étais externe puis tu laissais c'est ça. À l'hôpital.
Bien, c'est sûr aussi, on a des... Tu sais, là, j'ai quand même des stages souvent 2 mois. On a beaucoup de mois ectopiques, puis c'est des stages de 2 mois. Fait que, tu sais, on a quand même suivi plus longitudinal de nos patients, veux pas qu'externe, que mm-hmm. c'est 1 mois les stages. Il y a aussi l'aspect que, tu sais, on a des gardes, que, bon, si je me fais appeler le soir, faut que je sache que c'est ce patient-là, que, tu sais, bon, évidemment, que c'est quoi qu'il y a eu, c'est quoi qu'il faut suivre, mais... Je pense que c'est vraiment la gestion de l'étage à date le plus difficile à faire parce que externe, on n'est pas ou presque exposé à ça vraiment.
Puis tantôt, tu parlais des soins intensifs où tu as débuté, puis d'autres mois ectopiques. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? On dirait qu'on pense ORL, ouais. Mais c'est quoi les autres?
Mm-hmm. Puis de plus en plus, tu sais, quand on commence à regarder nos choix de CARMS et tout, on regarde, on s'intéresse aux programmes, pas juste mm-hmm. à la spécialité, mais donc, tu sais, le programme d'ORL Québec, Montréal, Sherbrooke, McGill, par exemple. Puis en ORL à Sherbrooke, on fait seulement 2 mois d'ORL, notre première année de résidence. Okay. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Là, on s'imagine qu'on est ORL puis que, tu sais, ORL constant. On fait beaucoup de mois, puis c'est un peu pour qu'on soit un well-rounded surgeon, mm-hmm. pour aller prendre un peu des éléments, des apprentissages de chaque spécialité qu'on peut rattacher à notre spécialité principale. Si on a 2 mois, par exemple, de chirurgie vasculaire, que là, vasculaire, tous les vaisseaux sanguins. Bon, nous, on fait beaucoup de lambeaux en ORL, de lambeaux libres pour les reconstructions. Fait que c'est super pertinent, la gestion des vaisseaux. T'sais, tout ce qui est anatomie du cou, en chirurgie vasculaire, ils font beaucoup de chirurgie dans le cou aussi, donc c'est pertinent. Puis juste le principe de un peu avoir des connaissances sur comment arrêter un saignement, par exemple, mm-hmm. artériel. On l'apprend un petit peu à travers ce stage-là. Des stages en plastie, aux soins intensifs, en infectio, en neurochirurgie pour des approches conjointes qu'on fait avec les neurochirurgiens en ORL. Fait que c'est aussi beaucoup de nouvelles connaissances, mais faut, je pense qu'il faut regarder toujours là que c'est pour être attaché à l'ORL. Fait que toujours de garder ça en tête, ça a l'air de comprendre un peu pourquoi on fait les choses, puis d'apprendre les bons éléments ou de retenir plutôt les bons éléments de chaque spécialité. Mais oui, en effet, c'est souvent, on dirait qu'on s'imagine que je m'en vais en ORL, bien, je ferai juste de l'ORL. Mm-hmm. C'est de plus en plus ça, souvent plus ton parcours avance. Mais même R5, on a des mois, mettons, je me rappelle plus, c'est bien R5, là, je vais pas dire n'importe quoi, mais on va avoir des mois en radio-oncologie ORL, par exemple, que là pour, mais tu sais, d'ORL, fait que c'est un petit peu plus rattaché, mm-hmm. évidemment. Mais fait que, souvent, on a des stages ectopiques, puis ça, c'est un peu pour toutes les résidences. Là.
Super okay, intéressant. C'est ça, justement, ouais. que j'allais demander si c'était plus vraiment l'ORL mm-hmm. ou si un peu toutes les spécialités chirurgicales.
Oui. De ce que toutes les spécialités chirurgicales ont des stages ectopiques.
Okay.
Beaucoup R1, puis un peu de moins en moins, le plus qu'on monte. Mais en ORL, de ce que je sais, je pense qu'on est un programme chirurgical qui a le moins de stages dans leur spécialité de rattache, la première année. Mais je pense vraiment pas que c'est un désavantage pour nous. Je pense qu'au contraire, on va chercher d'autres apprentissages. Puis au bout de la ligne, on a tellement à apprendre juste sur la technicalité chirurgicale, puis ce qu'on apprend dans tous les domaines, que on pourrait être encore 2-3 ans ectopé comme ça, là, puis ce serait impertinent encore.
Par rapport à, t'sais, au stress de toute la nouveauté, de tellement de connaissances à acquérir, t'sais, la chirurgie, on n'en parle pas tant au préclinique puis à l'externat, tout ça. Fait que j'ai l'impression que c'est beaucoup de connaissances aussi, juste de la chirurgie de base à acquérir. Comment tu gères un peu ce stress-là de toute la nouveauté, toutes les nouvelles connaissances?
Oui, bien, je pense que c'est vraiment de... Puis, tu sais, je pense que chaque personne a sa façon de gérer la situation, là, mais moi, ça a vraiment été comme... Juste tous les éléments, c'est de les écrire, là, tu sais. Sur soi, quelque chose, prends le 3 secondes pour l'écrire, soit sur une note, sur ta liste de patients, sur ton cell, comment tu retiens plus les choses. Mais des fois, on a l'impression qu'on reçoit un appel... « Ah, je vais l'écrire tantôt, j'avais fini ma consulte. » On prend 3 secondes que ça prend l'écrire pour être sûr de ne pas l'oublier. Parce que c'est un stress au début d'être comme... Tu sais, des fois, je me disais, je réouvrais ma page, je pourrais être sûr que, oh mon Dieu, là, j'ai une information, un page, une information, un page, une information, un page. J'étais comme, mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Tu sais, je peux pas comme, être un petit hamster qui roule comme ça tout le temps.
Ouais.
Donc, je pense que juste écrire ces choses, ça aide énormément. Puis oui, en effet, il y a toute l'espèce de connaissances. Puis les choses un peu sous la toile, un peu qu'on n'apprend pas nécessairement, mais tu sais, comment mettre un champ, comment faire la désinfection, tu sais, juste des petits trucs que tu es comme, mon Dieu, je peux pas demander ça à R1, mais personne me l'a appris ou ça m'est jamais arrivé. Tu sais, des fois, c'est juste de le demander à un patron une fois, demander à un résident senior une fois. OK, juste voir, puis tu sais, honnêtement, juste d'observer. On est vraiment capable d'apprendre beaucoup. Mais en effet, tu sais, des fois, c'est stressant de dire, OK, je suis toute seule, j'ai pas d'infirmière. C'est une lacération, là. C'est simple. C'est des points simples à faire. C'est pas compliqué, mais comment je fais, je rends ça stérile, tu sais, comment des petites choses comme ça. Mais, tu sais, on apprend ça vraiment, tu sais, c'est peu d'étapes, c'est facile à apprendre, tout le monde est capable d'apprendre, c'est juste de prendre le temps, de ne pas se sentir overwhelmed de choses à faire, tu sais, c'est pas grave, le patient est content, il va être traité, il va être pris en charge. Fait que c'est de prendre le temps des fois, puis de ne pas avoir peur de dire, hey, j'ai des ressources, tu sais, je peux aller voir sur Internet, je peux aller regarder des vidéos.
Ouais,
tu sais, c'est pas grave.
De se le permettre, puis de prendre le temps de le faire.
Exactement, tu sais, surtout sur des gardes qu'on se dit, hey, je suis là, c'est pas grave, c'est mon temps. Je pense qu'il faut juste prendre le temps. Mais c'est sûr qu'au début, c'est beaucoup. Mais je pense qu'il faut juste se dire, faut passer par là. Puis ça va,
on est là pour apprendre.
C'est ça, exactement. Puis ça se place, là. Mais en effet, le premier mois, la première garde que tu dois faire, comme monter un champ, tout ça, je suis comme, mon Dieu, OK. Je pense que je vais me garder 3 fois, là, parce que je suis comme, ah, j'ai oublié ça, j'ai oublié ci. Puis mais après ça, c'est fou comment, un peu comme à l'externe, puis même là, vous devez déjà le remarquer, là, que, au début, on est comme, mon Dieu, comment écrire une note? Je me rappelle que c'était comme, bon, l'imagerie, on la met-tu dans le texte, on la met-tu à côté, tu sais. Mais là, c'est rendu en ligne, fait que c'est un peu différent, là, mais dans le sens que c'est fou comment on a, on est comme des éponges. Là, c'est un peu, je trouve, comme ça, le début de la résidence, on apprend tellement vite, le pic d'apprentissage est comme ça. Fait que, je pense que c'est de moins en moins stressant, puis là, dès qu'on comprend que comme OK, ça, on peut se déstresser à travers tout ça, ça fait une espèce de sérénité un petit peu de dire bon, regarde-le, peu importe les autres choses stressantes, je sais que je vais l'apprendre, puis ça va bien aller.
Moi, je me demandais comment tu trouves ça, là, l'équilibre. T'sais, on entend souvent qu'une résidence chirurgicale, c'est assez difficile. Fait que l'équilibre, là, vie personnelle, vie professionnelle, comment tu jongles avec tout ça?
Mais honnêtement, puis là, c'est vraiment pour moi, je trouve ça vraiment correct. Puis à l'externe, moi, j'ai toujours eu savoir. Selon moi, une bonne qualité de vie, puis préclinique aussi. Je suis quand même quelqu'un qui est capable de... Tu sais, une fois que j'ai fini, puis je fais mes affaires. Je n'ai pas toujours ça dans l'arrière de la tête. Mais c'est sûr qu'au début, c'est beaucoup. Un peu comme à l'externe, au début, c'est juste tellement fatigant, l'espèce de petit stress constant qu'on ne réalise pas nécessairement au cours de la journée, puis qu'on arrive chez nous, puis qu'on a « Mon Dieu, que je suis fatiguée, qu'est-ce qui se passe? » Mais, tu sais, moi, je pense, tu sais, c'est le classique, là, c'est comme juste dire « OK, je fais du sport, puis je le mets dans mon horaire, puis je le fais. » Mais tu sais, on l'entend tout le temps, mais c'est juste faut le faire. C'est le faire qui est difficile, on dirait. C'est un petit coup de pouce derrière. Puis, tu sais, externe, je trouve qu'on a quand même beaucoup de tâches. On a beaucoup d'études à faire le soir. Puis on est toujours dans le constant comme, mon Dieu, il faut que je me prouve. Il faut que je réponde aux questions hein, durant la chirurgie. Mon Dieu, il faut que je sache ça. Puis résident, il y a d'autres aspects que, tu sais, on a la responsabilité un petit peu plus de dire qu'il faut pas que j'oublie ci, il faut pas que j'oublie ça, qui est peut-être plus stressante pour certains, peut-être moins stressante pour d'autres. Mais en termes de temps, je trouve que résident, c'est plus facile de faire la coupure un peu entre, mettons, le soir quand j'arrive chez moi, puis le jour. C'est sûr que oui, si on a de l'étude à faire parce que, bon, on a le Collège Royal qui arrive quand même relativement rapidement, on dirait des fois, mais je me dis, non, j'ai 5 ans, c'est vraiment... mais, tu sais, il faut quand même... Puis juste... Puis on dirait qu'on étudie un peu de façon différente, qu'on étudie plus pour un examen, puis techniquement, il ne faudrait jamais étudier pour un examen. Mais externe, c'est un petit peu ça parce que c'est tellement beaucoup de connaissances que oui, ça va toujours être pertinent, mais peut-être pas autant dans certaines spécialités. Mais résident, c'est vraiment, OK, il faut que j'étudie pour mes patients parce que demain, je vais peut-être être toute seule puis ce serait le fun de savoir quoi faire. Fait que c'est sûr que ça, c'est comme une autre motivation, moi, je trouve, d'étudier un petit peu plus puis c'est encore plus le fun. Puis là, tu étudies plus que t'aimes, en tout cas. Le jour que j'espère. Fait que c'est un petit peu ça, mais c'est sûr que c'est difficile de concilier le tout. Mais pour moi, à date, ça va vraiment bien. T'sais, on est quand même maxé à 9 gardes par mois.
OK.
Fait que ça compte comme des gardes de fin de semaine ou de soir. Fait que si, mettons, je peux être garde le lundi. Ben, mettons, cette semaine, par exemple, j'étais de garde hier, fait que lundi. Mm-hmm. Puis je suis de garde vendredi, samedi, dimanche.
OK.
Fait que là, c'est comme 4 gardes.
OK.
Fait que là, j'ai juste 5 autres gardes dans le mois.
Okay.
Fait que, tu sais, c'est pas, je trouve pas ça si pire que ça. Je dis pas que prenez-moi après peut-être une fin de semaine que j'ai pas dormi 3 heures au total, je vais peut-être pas dire la même chose. Ouais. Mais tu sais, en ce moment, je trouve ça va vraiment bien. Faut se reposer quand on a le temps. À Sherbrooke, on est vraiment chanceux. Là. On a des cours de fondements chirurgicaux tous les mercredis. Chaque université en a, mais des fois, c'est un petit peu fait différemment. Puis ça fait en sorte que le mercredi, on a comme une pause de mi-semaine un petit peu. On a soit des cours toute la journée ou juste le matin ou juste l'après-midi. Fait que ça fait quand même du bien, ça. Ça fait comme une petite pause de fin de journée, de mi-semaine.
Ouais.
Je suis sûre que je le manquais à R2, là. Ça, c'est vraiment plaisant. Là.
Mm-hmm. Là, on rentrerait dans un autre sujet un peu. On se demandait, est-ce que en tant que femme, ça t'est déjà arrivé de recevoir des commentaires de ton entourage qui te décourageait un peu à aller vers une spécialité chirurgicale? Peut-être pas nécessairement directement dit comme ça, mais t'sais, que tu ressentais qu'il y en a qui te décourageaient un peu à aller faire ça ou qui te disaient que ce serait une moins bonne idée, mettons.
Je crois, c'est déjà arrivé des petits commentaires, un peu comme tu dis, si jamais directement explicite, c'est une femme, tu ne devrais pas aller en chirurgie. Mais c'est des tu veux une famille, hein? Tu veux être présent pour tes enfants. Ben oui, c'est sûr que je vais être une mère présente pour mes enfants. Mais c'est sûr, j'ai eu des petits commentaires un peu backhanded. Je suis sûre que c'est souvent pas de façon méchante pour dire à la personne. C'est comme juste qu'elle veut. Es-tu sûre de tes choix? As-tu pensé à ça? Mais clairement qu'on y a tous pensé à ça. Mm-hmm. Je pense que c'est aussi le point que. On y a pensé à ça, mais ça veut pas dire que être chirurgienne égale ne pas être présente pour sa famille ou ne pas avoir de temps pour soi. Vraiment pas comme n'importe quelle spécialité, tu peux ne pas être présent comme n'importe quelle spécialité, tu pourrais être présente. Donc, tu sais, je pense que ça dépend juste de ses priorités puis aussi de comment on gère son temps. C'est sûr qu'on a moins de temps souvent, mais je pense que ça veut pas dire qu'on peut pas être présent. Mais en effet, ça arrive des petits commentaires de patrons aussi. Tu sais, ça peut arriver par moment, comme quand j'étais externe, tu regardais un petit peu plus des spécialités chirurgicales ou médicales, comment est-ce que tu sais que tu vas avoir comme moins de temps, un petit peu. Je pense pas nécessairement que c'est souvent dit pour être femme en soi, mais tu sais, c'est juste des commentaires de temps. Es-tu prête à faire ce sacrifice-là un petit peu? Moi, je le vois pas nécessairement comme un sacrifice parce que je pense qu'on peut avoir les deux. Mais bon, ça, c'est ma vision des choses.
OK. Puis est-ce que le fait, mettons, d'avoir... Tu sais, on voit de plus en plus de mentors femmes chirurgiennes. Tu sais, justement, nous, avec l'association, on en côtoie beaucoup. Puis je trouve que ça l'aide vraiment de voir des mentors. Fait que je sais pas si toi, il y a des patronnes en ORL que ça te motive, puis tu les vois aller, puis tu te dis, ah, tu sais, c'est possible de... d'avoir une vie des enfants.
Mais oui, mais il y en a 3 patronnes en ORL là, qui ont des enfants. Puis, tu sais, oui, c'est sûr de les voir, puis ils ont l'air très heureuses, très épanouies. J'ai hâte de les connaître un petit peu plus encore, évidemment.
Ouais, c'est ça.
Mais, tu sais, je pense que c'est autant les patronnes femmes comme hommes qui ont des enfants en ORL que je connais à Sherbrooke comme dans d'autres milieux. Tu sais, ont tous l'air des parents heureux, puis avec des familles heureuses. Puis même ceux qui n'ont pas d'enfants ont l'air très bien dans leur vie, ils ont l'air épanouis, exactement. Okay. Fait que je pense que c'est possible, mais je pense que c'est ça. Faut juste prendre le temps de faire les choses puis faire des choix qui sont en lien avec nos valeurs un petit peu. Mais en même temps, on dit toujours ça, mais ça arrive dans des moments de vie probablement que ça sera pas facile. Ça sera peut-être pas possible non plus, mais je pense pas que c'est le big picture. Là.
Ouais,
c'est super intéressant. Puis, si tantôt, tu as mentionné que ton intérêt pour l'ORL, tu l'avais découvert là, un peu tard, ben, en fait, au début de l'externat. Quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui découvre justement un intérêt pour une spécialité chirurgicale, pas nécessairement l'ORL, mais comme plus tardivement? Comme comment tu as changé ton fusil d'épaule?
Mais c'est, honnêtement, c'est comme un stress de dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu dis?
Ouais,
c'est
que faire.
On est content de l'avoir découvert, qu'on avait un intérêt, mais on est comme, mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec maintenant? Tu sais, moi, tout de suite, j'ai parlé à mon patron, comme que j'étais dans le milieu, puis j'étais comme, hey, j'aime vraiment ça. Comme, est-ce que vous avez un contact pour un projet de recherche? C'est n'importe quoi que je peux mettre mon nom dessus. Là. Je vais faire n'importe quoi. J'ai fait, ben oui, je connais. C'était un patron qui était récemment, qui venait récemment de terminer sa résidence. Fait, comme, ben oui, je connais Dr. Fradet à Sherbrooke. Je vais lui envoyer un message pour dire que tu as une externe super intéressée ici. Puis là, tu sais, bon, j'ai commencé à faire un petit projet de recherche avec lui. Puis, tu sais, moi, j'avais travaillé fort pour être exposée. J'avais demandé des gars avec les résidents. Et tout. Puis, tu sais, ça, c'est pas toujours facile non plus parce qu'il y a beaucoup d'externes qui font ça. Il y a beaucoup de demandes. Puis, j'ai pas eu les stages électifs. J'ai eu le dernier stage électif qui était post-DREM, qui était même pas envoyé au CARMS, en ORL à Sherbrooke. Sinon, j'avais un stage en région, tu sais.
Oh mon Dieu.
Fait qu'il y a beaucoup de chance quand même. Puis, tout le monde est d'accord avec ça que si t'as pas de stage, t'es beau, tu serais peut-être le meilleur chirurgien dans telle spécialité, mais c'est pas facile d'accepter quelqu'un que t'as pas vu travailler dans une spécialité. C'est vraiment dommage parce que ça arrive là, des malchances. Puis honnêtement, les résidents, les externes, je veux dire, qui finissent leur camp, ils n'ont pas été chanceux. Ils ont eu des mois qui ont manqué. Puis c'est le mois qu'ils voulaient. Comme, ça peut être catastrophique. Ouais. Puis c'est vrai. Là. Donc, ça, c'est vraiment dommage que cette espèce de petite 10, 15, 20 % de chance que veut pas faut avoir le stage. Mm-hmm. C'est sûr que de plus en plus, je pense que avec des stages dans d'autres milieux, par démarche personnelle, c'est possible, mais c'est quand même, c'est pas évident. Là. Ouais. Puis je le sais. Là. Moi aussi, j'avais essayé. Vous commencez dans ça probablement, là, fait que vous le savez. Mais c'est s'exposer. Puis il y a toujours le no match. Là. Moi, j'en avais pas fait de no match. Okay. Je n'étais pas à l'aise avec ça.
Okay.
Parce que je pense que j'aurais été quand même heureuse dans d'autres spécialités, même si l'ORL, c'est mon premier choix. Mais il y a toujours ça. Puis j'en connais plein de personnes qui ont réussi après un no match. Mais c'est comme un choix quand même difficile à faire, mais c'est difficile. Il n'y a comme pas de réponse magique, un petit peu, mais c'est de s'exposer puis c'est d'essayer de mettre son nom out there, d'essayer de faire le plus de démarches un petit peu dans les projets de recherche, dans les congrès. Puis des fois, ça, c'est quelque chose que le monde ne pense pas, mais tu sais, juste d'aller dans un congrès d'ORL ou c'est ce qu'ils veulent. Puis juste rencontrer différents patrons, différents milieux, faire un peu montrer son visage, montrer son nom, ça peut quand même aider. Là. Mais comme je dis, il n'y a pas de réponse parfaite. Puis je ne sais pas un peu qu'est-ce qui fait le pour ou le non. Là, tu sais, j'ai jamais été sur un comité non plus. Fait que c'est difficile à dire.
C'est dur à savoir, effectivement. Puis il y a tellement de candidatures.
Exact.
Avec des dossiers parfaits, ça doit être difficile de choisir. Sinon, avec des fois, c'est quasiment rendu du hasard à la fin. Là.
Mais c'est sûr que c'est pas facile, mais je pense que c'est vraiment de... Puis je pense que ça dépend vraiment de milieu. Tu sais, chacun des milieux, je pense, souhaite un candidat en particulier ou des caractéristiques de candidat. Mais tu sais, je pense que c'est juste d'être proactif, là, ça peut tellement donner beaucoup. Là. Puis on dirait que on le voit, puis je suis vraiment bébé résidente, là, tu sais, je veux vraiment pas parler au-dessus de mes connaissances, mais si on voit, tu sais, les externes proactifs, ils ont l'air super intéressés, puis on dirait qu'on a juste le goût de leur dire, ah, ben fais-le finalement, tu sais, fais la biopsie, fais ci, puis je pense que c'est comme ça aussi que tu montres un petit peu, puis tu montres justement ce que tu es capable de faire. Fait que juste d'être présent. Puis là, la ligne est toujours nette entre être présent et trop présent. Là.
C'est le juste milieu.
Le juste milieu, c'est ça de savoir un petit peu comme pour pas être encombrant dans des moments un petit peu plus cruciaux. Mais je pense que c'est quand on est juste super intéressé, on pose des questions, on voit qu'il y a une chirurgie le lendemain, bien, on va lire dessus la veille pour... Oui, être capable de répondre aux questions, mais juste être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça paraît vraiment quelqu'un qui comprend ce qui se passe versus quelqu'un qui est juste capable de répondre c'est quoi le nerf qui nerve telle structure. Là.
Ça facilite la compréhension aussi.
C'est ça, exact. Là, les questions sont comme en lien avec la chirurgie. Ça a un peu plus de sens. Là.
Oui.
Fait que je pense que ça l'aide aussi, là, juste de faire ça.
Oui, puis pour nous, tu sais, en tant qu'externe, ça rend nos journées plus le fun aussi.
C'est beaucoup plus agréable full, de savoir.
Intéressé, puis c'est ça, proactif, tout ça.
Puis en tout cas, de mon vécu, là, quand on montre de l'intérêt, souvent on nous récompense en nous donnant justement des tâches.
Puis moi, j'avais une autre petite question que j'aime bien poser. Là, si tu avais deux mots à choisir pour décrire ta spécialité, donc l'ORL, ça serait quoi ces deux mots-là? Puis pourquoi?
C'est C'est une bonne question. Je pense que j'irais diversifier juste par... Tu sais, ça peut un peu se rattacher à n'importe quelle spécialité, mais je trouve que l'ORL, moi, c'est un peu un des points aussi pourquoi j'ai adoré ça à l'externe, c'est que c'est diversifié en termes de patientèle, qu'on a vraiment énormément d'enfants, tout ce qui est, tu sais, à répétition, des amygdales, tu sais, tout ça, mais aussi des personnes vraiment plus âgées pour tout ce qui est surdité ou tout... toute néoplasie. Donc, moi, j'ai adoré avoir que j'avais pas besoin de faire un choix entre une patientèle adulte ou pédiatrique, puis que c'est vraiment présent, comme omniprésent dans la spécialité, ces deux patientèles-là, pour une pratique en région, par exemple. Fait que ça, j'ai adoré ça. Puis aussi, justement, comme diversifier en sens qu'en clinique externe, on fait pas juste faire des rendez-vous, tu sais, on va faire des biopsies, on va enlever des lésions, on va nettoyer les oreilles, on va faire des traitements dans les oreilles, on peut faire des injections transtympaniques en clinique externe, on va scoper les patients pour aller voir leur corde vocale. Fait que c'est toujours des petites techniques, puis on bouge tout le temps beaucoup en clinique. Fait que ça, j'aimais vraiment ça. Fait que d'où découle mon deuxième mot, je pense, qui est comme dynamique. Moi, j'aime vraiment ça, bouger à l'externe. Mes journées préférées, c'était toujours les journées comme, qu'on n'arrêtait pas de bouger. On voyait plein de patients, il y avait plein de consultes, puis c'est ça que j'aimais. Fait que je pense que c'est une spécialité qui a vraiment ça de présent. Autant, on va avoir des demandes à l'urgence, on a nos patients à l'étage, on a énormément de patients en clinique, en salle d'opération. Fait que moi, j'aimais vraiment ça, cette espèce de mouvement constant. Oui. OK, je pense que c'est les deux mots que j'aurais dit de la spécialité.
Parfait. Fait qu'on retient diversifié et dynamique.
Maintenant, pour la dernière question pour le podcast, je me demandais, est-ce que tu as comme un élément que tu retiens de ton entrée à la résidence, comme un conseil ou quelque chose que tu sais qui t'a vraiment, que tu retiens de ce moment-là de ta vie, qui serait utile à dire pour les prochains qui vont passer par cette transition stressante-là?
C'est vraiment une bonne question. Là. Il y a tellement beaucoup de choses que je pourrais dire de pertinentes, comme j'ai l'impression que pas tant pertinentes non plus. Mais il y a des... Tu sais, je pense que c'est juste de se faire confiance dans le parcours qu'on a eu, qu'on nous a donné tous les éléments nécessaire pour être capable d'effectuer les choses, puis de ne pas avoir peur de poser des questions. Là, je sais que c'est tellement typique comme réponse, mais juste de prendre le résident senior ou le patron et dire « OK, hey, j'ai jamais prescrit telle chose ou j'ai jamais fait telle chose. Est-ce que c'est possible d'aider? » Puis de ne pas oublier qu'il y a d'autres professionnels qu'on peut utiliser à l'hôpital comme ressources. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas nécessairement ou qu'on le sait, mais on ne le fait pas. Moi, ça m'est arrivé à l'urgence, on donné, je devais prescrire de l'insuline, puis transférer son insuline injectable en IV. Puis j'étais comme, mon Dieu, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Je sais pas comment faire les transitions. Puis j'étais comme, je peux pas demander une consultation de médecin interne pour ça, ça n'a pas d'allure. Puis j'ai comme appelé la pharmacienne, j'étais comme, hey, pouvez-vous m'aider? Puis elle était comme, ben oui, ça c'est équivalent à ça, ça c'est équivalent à ça. Puis ça m'a vraiment sauvé la vie à ce moment-là. Dans ma tête, c'était comme la panique pour ça. Puis c'était si simple. Puis elle était super contente de m'aider, il n'y avait pas de problème. J'ai appelé la pharmacienne de garde. Fait que pas oublier qu'on a ces éléments-là, que les infirmières ont plein de connaissances, les ergothérapeutes ont plein de connaissances, enfin, les physios, tu sais, tous les professionnels de santé. Fait que d'aller chercher toutes les ressources, c'est vraiment pertinent. Il y a plein de protocoles dans Ariane. Fait que des fois, de se rappeler qu'on a tous ces outils-là, là, ça l'aide vraiment, ça peut vraiment nous sauver du temps, là.
Wow, ben merci pour ces beaux conseils. Oui, on va s'en rappeler. Puis je pense que tous les étudiants qui écoutent le podcast aussi, là, ça va pouvoir leur être utile. Donc, merci beaucoup encore d'avoir été de passage.
Merci de l'invitation.
C'est ce qui conclut notre épisode avec Dr. Laferté. Je pense qu'elle nous a donné des vraiment bons conseils là, pour l'entrée à la résidence. Puis maintenant, on a une meilleure idée de comment ça se passe, là, surtout en ORL. Puis c'est vraiment intéressant, justement, qu'ils font plein de sages, puis c'est médicus, chirurgicus.
Très varié.
Ouais. Donc, on en a appris beaucoup encore une fois.
Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute, puis on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.